journal de la rédaction avec vous, Alexandra Dubucheron. Bonjour.
Bonjour Florian, bonjour à toutes et à tous. Une foule en délire pour acclamer le mythe au mito à Brasilia. Jair Bolsonaro a officiellement pris ses fonctions hier à la tête du pays. Dans son premier discours de président, il a promis un retour aux principes éthiques et moraux. Olivier Poujade a suivi la cérémonie d'investiture pour France Culture. Et l'arrivée du premier président d'extrême droite au Brésil, c'est aussi le thème de la question du jour ce matin, Florian.
Oui, investiture de Bolsonaro, comment va-t-il gouverner? On posera la question tout à l'heure à Armel Anders.
Dans ce journal, nous reviendrons sur le dernier épisode d'une campagne à rebondissement en Israël. À 3 mois des législatives, la principale coalition d'opposition vole en éclats.
Et puis à suivre aussi en France, la taxe GAFA appliquée depuis hier, mais qui ne va pas assez loin pour l'ONG Attac.
On parlera également du reste à charge zéro, les prothèses auditives, dentaires et les lunettes remboursées à 100% d'ici 2021. Et puis portrait de l'une des étoiles montantes de la politique française à la fin de ce journal, l'ex-LR et patron des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, devenu particulièrement influent, nous dira Steven Goyer. La première puissance d'Amérique latine, le Brésil, se réveille aujourd'hui avec un nouveau président. Jair Bolsonaro est entré en fonction hier, un peu plus de 2 mois après son élection. Le candidat d'extrême droite avait séduit 55% des électeurs, notamment avec ses promesses de lutte contre la corruption, contre la violence et contre la crise économique. Et hier, lors de la cérémonie d'investiture dans la capitale brésilienne, cet habitué des provocations et des dérapages est resté sobre. Pas de discours autoritaire, non. Il a appelé à un pacte national. Le reportage d'Olivier Poujade. À la Brasilia.
Tous derrière lui pour rebâtir le Brésil, délivrer le pays, dit-il, de l'idéologie socialiste. Tout ce que voulait entendre Glaura. C'est une fan de la première heure, admiratrice d'un discours qui, selon elle, est ancré depuis toujours dans le cœur des bons citoyens. Ce vers qui va enfin se tourner Jair Bolsonaro.
Il est la voix du Brésilien silencieux, du Brésilien de droite, conservateur, traditionnel, qui défend la famille, qui jusqu'ici se taisait.
Comme un écho devant le palais présidentiel, Bolsonaro finit de sceller cette relation fusionnelle avec ses électeurs.
Les élections ont donné la parole à ceux qui n'étaient pas entendus. Nous pouvons, vous, moi et nos familles, rétablir les principes éthiques et moraux qui transformeront le Brésil. Tout ce que nous ferons n'a qu'un seul but, non négociable, faire passer les intérêts des Brésiliens avant tout.
Le America's First de Trump version tropicale, dans le discours la ressemblance est évidente. Bolsonaro dénonce le politiquement correct et prône le retour à des valeurs qu'il juge fondamentales.
Olivier Poujade, envoyé spécial au Brésil avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Pékin ne veut pas renoncer au recours à la force pour combattre les indépendantistes à Taïwan. Déclaration du président chinois Xi Jinping ce mercredi dans un discours solennel. Taïwan et le continent sont gouvernés séparément depuis 1949 et la fin de la guerre civile chinoise. Mais la Chine considère l'île comme l'une de ses provinces.
C'est un moment de télévision assez inédit qui s'est produit en Israël hier.
Oui, les députés de la coalition de centre-gauche baptisée l'Union sioniste tenaient une conférence de presse en direct lorsque Avi Gabay, le chef du parti travailliste, a annoncé qu'il rompait cette union. À ses côtés, la députée du mouvement Atnoua, Tzipi Livni, chef de l'opposition au Parlement, a semblé découvrir la nouvelle en même temps que les téléspectateurs. La gauche ira donc en ordre dispersé aux élections législatives dans 3 mois. Les précisions de Marine Vlaovic, correspondante de RFI et de France Culture à Jérusalem.
Simple inimitié politique ou calcul à long terme, Avi Gabay n'a en tout cas pas mis les formes pour annoncer la fin de son alliance avec Tzipi Livni. Car c'est au cours d'une réunion, et sans prévenir auparavant la principale intéressée, que le chef de file du parti travailliste a sonné le glas de l'Union sioniste. La scène, retransmise en direct à la télévision israélienne et qui montre une Tzipi Livni médusée, est devenue le symbole de cette campagne à rebondissement où tous les coups sont permis. Mais aussi l'emblème d'une recomposition des forces politiques à l'approche des élections. Mal en point, l'Union sioniste était en chute libre dans les sondages et selon les observateurs, ce coup de théâtre est un appel du pied à Benny Gantz, l'ex-chef d'état-major, un outsider centriste et populaire qui vient de créer sa formation politique, serait un allié de choix pour le parti travailliste. Autre rebondissement récent mais à droite, la semaine dernière, le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, et la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, ont annoncé qu'ils quittaient le parti nationaliste religieux, le foyer juif, pour fonder la nouvelle droite et capter ainsi le vote des non-religieux de centre-droit. Reste à savoir si ce morcellement, à droite comme à gauche, profitera ou non à Benjamin Netanyahou. Le Likoud, le parti du Premier ministre sous la menace d'une mise en examen pour corruption, est en tout cas pour le moment en tête des sondages.
Et dans sa revue de presse à 7h35 tout à l'heure, Camille Magnard reviendra en longueur sur ce coup de théâtre dans la politique israélienne. Un premier jour de l'année meurtrier au Mali, 37 habitants d'un village Peul ont été tués le 1er janvier dans le centre du pays. Attaque de chasseurs traditionnels attribuée à l'ethnie des Dogons. Il y a 10 jours, le gouvernement avait engagé un dialogue intercommunautaire pour renforcer la sécurité dans la région.
7h05, la suite du journal avec vous sur France Culture, Alexandra Dubouchon. Et en France, à partir de cette année, les géants du numérique devront s'acquitter d'une taxe spéciale.
La taxe GAFA pour Google, Apple, Facebook, Amazon, ces entreprises qui s'arrangeaient jusqu'à présent pour payer le moins possible d'impôts en France et plus globalement en Europe. La mesure devrait être introduite dans le projet de loi Pacte approuvé en première lecture à l'Assemblée et qui doit être soumis au Sénat dans les prochains mois. Mais elle s'applique depuis hier, 1er janvier. Paris n'a donc pas attendu un accord européen pour faire passer ce nouveau prélèvement qui doit rapporter, indique Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, 500 millions d'euros pour la première année, c'est-à-dire pour 2019. Mais l'association Attac dénonce une réforme aux ambitions limitées. Raphaël Prado est son porte-parole.
Nous, on pense que c'est un écran de fumée, en fait. C'est une manière de dire aux gens, on vous a entendu, vous voulez de la justice fiscale, vous voulez que les multinationales payent des impôts, on les taxe. Sauf que quand on regarde en détail, eh bien, ça ne règle absolument pas le problème de l'évasion fiscale. Quel est le problème de départ? C'est que les multinationales, et notamment celles du numérique, ne payent pas d'impôts en France, ou très peu. Comment est-ce qu'elles font? Elles délocalisent, on va dire, artificiellement leurs profits dans des paradis fiscaux. Et donc, le maire nous dit, c'est pas normal, elles ne payent pas d'impôts, donc on va les taxer. Très bien. Sauf que qu'est-ce qu'on va taxer? On va taxer le revenu qu'elles veulent bien déclarer en France. Ce qui permet de comprendre pourquoi la recette annoncée est aussi modique. On nous annonce 500 millions d'euros par an, c'est absolument ridicule. Je prends quelques chiffres. Les deux filiales françaises d'Apple déclarent 800 millions de chiffre d'affaires par an. En réalité, le chiffre d'affaires estimé, c'est au moins 4 milliards. Pour Facebook, les écarts sont encore plus importants. Pour Google, pour Amazon, pour tous ces géants, on a un décalage total entre les quelques miettes de revenus déclarés en France et l'immense majorité des profits réels qui sont déclarés au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Irlande, ça dépend des multinationales. Et donc en réalité, aujourd'hui, on nous dit on va mettre une taxe de quelques pourcents sur le chiffre d'affaires des multinationales du numérique, très bien, mais en réalité, ça ne règle absolument pas le problème fondamental qui est comment est-ce qu'on fait pour aller récupérer les milliards d'euros qui sont déclarés artificiellement au Luxembourg ou en Irlande.
Raphaël Prado de l'organisation Attaque avec Catherine Pétillon pour France Culture. Et le combat France contre GAFA, ce sera le sujet du grain à moudre ce soir sur France Culture après le journal de 18h en présence notamment du secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi. La taxe GAFA était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Autre promesse qui a vu le jour hier, le reste à charge zéro, c'est-à-dire le remboursement intégral de certaines lunettes, prothèses dentaires et auditives, des équipements et des soins en général onéreux. Aujourd'hui, un Français sur trois y renonce, faute d'argent. Alors cette réforme sera mise en place progressivement d'ici 2021 et on fait le point avec vous, Véronique Julia.
Le poste le plus lourd pour les assurés, ce sont les prothèses auditives. Jusqu'à 1500 euros par oreille à sortir de sa poche pour les plus hauts de gamme, avec un remboursement de 119 euros par l'assurance maladie. En 2021, une offre sera disponible à seulement 950 euros l'oreille, remboursée cette fois à hauteur de 400 euros par la Sécu, le reste par les complémentaires. Ce prix plancher sera atteint par palier. On descendra à 1300 euros dès cette année, 1100 euros en 2020. Parallèlement, l'assurance maladie augmentera son remboursement de façon progressive. L'équipement sera renouvelable tous les 4 ans. Les appareils disposeront de 12 canaux de réglage. Pour le dentaire, il faudra attendre le 1er avril prochain. Là encore, le reste à charge zéro se mettra en place par étapes. À terme, les assurés auront accès à des prothèses céramiques pour les dents qui se voient et des prothèses métalliques pour les molaires. Enfin, dès le 1er janvier 2020, c'est-à-dire dans tout juste un an, les opticiens devront proposer une trentaine de montures à 30 euros maximum avec des verres dont le tarif dépendra de la correction. Pour une myopie légère, la paire de lunettes sera facturée au maximum 105 euros, entièrement pris en charge par l'assurance maladie et la complémentaire santé.
Véronique Julia, et cette réforme mise en place après des mois de négociations entre le gouvernement et les professionnels concernés coûtera plus d'un milliard d'euros à la sécurité sociale et aux complémentaires. C'est une information de France Bleu Normandie. Des dizaines de gilets jaunes bloquent depuis ce matin le dépôt pétrolier Ruby de Grand-Quevilly près de Rouen en Seine-Maritime. Les camions-citernes ne peuvent ni entrer ni sortir du dépôt.
C'est l'homme qui murmure à l'oreille d'Emmanuel Macron.
Oui, du moins c'est ce que l'on dit. Et de plus en plus, on parle de Xavier Bertrand, le président du Conseil régional des Hauts-de-France, ancien cadre Les Républicains et surtout l'une des personnalités politiques préférées des Français. Stephen Goyer, la cote de popularité de l'ancien ministre grimpe aussi chez les marcheurs.
Xavier Bertrand doit-il avoir davantage d'influence dans la vie politique française? Dans le dernier sondage BVA, 58% des sympathisants de la majorité répondent par l'affirmative, 11 points de plus qu'un mois auparavant, ce qui fait du président de la région Hauts-de-France le premier non-ministre dans les préférences affichées. En dehors de La République En Marche, Xavier Bertrand se permet même de prendre la première place du classement à Nicolas Hulot, une popularité venue sans doute de l'influence récente de ses propositions sur l'exécutif. Début décembre, il réclame au gouvernement une prime exceptionnelle pour la fin de l'année de quelques centaines d'euros pour calmer la colère des Gilets jaunes. Demande qui ne passe pas inaperçue. Le 10 décembre, Emmanuel Macron annonce lui-même « Je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés et cette prime n'aura à acquitter ni impôts ni charges », mesure qui s'ajoute au chèque carburant dévoilé en novembre, idée venue précisément de la région Hauts-de-France. Alors les idées communes ou la proximité ne signifient pas forcément un retour sur le ring politique national pour Xavier Bertrand, qui martèle ne pas vouloir quitter sa région, ou même une adhésion à La République En Marche, malgré les appels du pied du parti majoritaire. Il avait par exemple refusé de rejoindre les troupes macronistes il y a un an, après son départ des Républicains, préférant construire de son côté les fondations de son mouvement La Manufacture, stratégie qui semble pour l'instant fonctionner sur l'opinion publique.
Stephen Goyer du service politique de France Culture. L'Assemblée nationale n'évoquera pas le dossier Benalla. La présidente de la Commission des lois, la députée La République En Marche, Yaël Braun-Pivet, a opposé une fin de non-recevoir hier au groupe socialiste et apparenté qui réclamait une réunion en urgence pour remettre en place une commission d'enquête après les révélations sur les passeports diplomatiques de l'ancien collaborateur de l'Élysée. La couleur du ciel aujourd'hui, tout bleu au sud, près de la Méditerranée et sur les Pyrénées. Apparition de quelques éclaircies du centre au nord-ouest du pays. Persistance des nuages en revanche à l'est et puis dans la moitié ouest, ça se dégage au cours de la journée près de l'Atlantique. Ce matin, comptez moins 2 à 8 degrés.
Merci Alexandra Dubouchereau, on vous retrouve à 7h30.